Bonsoir ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. Ici à Paris, il est 20h.
RFI Soir. Philippe Caplain.
Enquête, analyse et commentaires à suivre dans RFI Soir, tout de suite le journal. Et les pays du Golfe qui mettent en garde contre un conflit régional après les frappes israéliennes menées en Iran. Le gouvernement français qui voit l'Assemblée retoquer de nouvelles mesures de son projet de budget. Et en Espagne, un scandale sexuel qui secoue la classe politique et implique Íñigo Errejón du parti de gauche Sumar. Après les frappes israéliennes en Iran qui ont fait 4 morts en visant des sites militaires, cela en réponse à la salve de missiles tirée le 1er octobre par Téhéran en direction du territoire israélien, eh bien les condamnations sont très nombreuses. Voyons cela avec vous, Vincent Danilo.
S'abstenir de toute escalade, voilà ce que demande la France. Même chose pour l'Allemagne et le Royaume-Uni. De son côté, Washington invoque la légitime défense d'Israël et exhorte l'Iran à ne pas répliquer. Mais après les frappes nocturnes, Téhéran juge avoir le devoir de se défendre. Ces frappes israéliennes ont d'ailleurs suscité l'inquiétude des alliés des États-Unis dans la région. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et la Jordanie sont unanimes, condamnation ferme des attaques israéliennes. Le Qatar, lui, dénonce une violation flagrante de la souveraineté de l'Iran. Et dans ce contexte explosif, l'Irak pointe du doigt le silence de la communauté internationale tout en s'indignant du, je cite, « comportement brutal d'Israël ». La Turquie parle même de « terreur » créée par l'État hébreu dans la région. Enfin, le Pakistan, le grand allié régional des États-Unis, qui partage une longue frontière avec l'Iran, estime qu'Israël porte l'entière responsabilité de l'escalade et de l'extension du conflit. Le voisin afghan est sorti de son silence habituel pour dénoncer un risque d'aggravation de la situation régionale.
Alors cela fait bien longtemps que l'Iran et Israël s'affrontent directement, mais jusque-là le conflit se faisait par procuration. Israël affrontait en fait des groupes pro-iraniens comme le Hamas ou le Hezbollah, mais Théo Renaudon, les choses ont changé.
Tout commence le 1er avril. Un bombardement israélien frappe l'ambassade d'Iran à Damas, en Syrie. Première fois qu'Israël frappe non pas un groupe pro-iranien, mais un bâtiment iranien. Téhéran se voit alors obligé de répondre lui-même. 15 jours plus tard, l'Iran lance 300 drones suicides vers Israël, mais tente quand même d'éviter l'escalade et prévient les États-Unis. Les drones lancés sont très lents et mettent plusieurs heures à atteindre leur cible. Quasiment tous sont abattus avant d'atteindre Israël. Israël, qui riposte, bombarde l'Iran sur une base militaire et ne revendique pas l'attaque. En juillet dernier, le dirigeant du Hamas, Ismaël Haniyeh, est assassiné à Téhéran. Pas de revendication. Une fois encore, vient l'assassinat du chef tout-puissant du Hezbollah, Hassan Nasrallah. Là, c'est Téhéran qui riposte beaucoup plus violemment qu'en avril. 1er octobre, 200 missiles balistiques envoyés par surprise sur Israël. Israël a donc riposté cette nuit à cette attaque. Cible choisie, militaire. Pas de civils tués. On est encore loin d'une guerre de haute intensité.
L'armée israélienne, en tout cas, est sur tous les fronts, Iran, Liban et donc Gaza aussi. Gaza où le Hamas publie un nouveau bilan des victimes des bombardements. Il fait maintenant état de 42 924 victimes, sachant qu'au moins 77 personnes ont été tuées ces dernières 48 heures. Et concernant l'Iran, au moins 10 policiers ont été tués dans l'une des attaques les plus meurtrières revendiquées par un groupe djihadiste. Cela s'est passé dans une zone frontalière du Pakistan et de l'Afghanistan. L'organisation sunnite Jihad al-Adl, qui signifie armée de la justice, basée au Pakistan, a revendiqué cette attaque sur la messagerie Telegram. L'heure est au dépouillement en Géorgie. À ce stade, le pouvoir et l'opposition revendiquent la victoire. Les électeurs votaient pour des élections législatives alors que le pays est divisé entre une opposition pro-européenne et un parti au pouvoir accusé de dérives autoritaires pro-russes. En Argentine, Javier Milei continue sa politique de la tronçonneuse, comme il l'appelle lui-même, pour renflouer les caisses du pays tout en réduisant le secteur public à sa plus simple expression. Il veut désormais vendre près de 1200 biens immobiliers détenus par l'État. Cette annonce intervient alors que le Fonds monétaire international salue la politique économique du président élu il y a un peu moins d'un an, Justine Fontaine.
Pour la première fois depuis 16 ans, l'Argentine a enregistré un excédent budgétaire au premier semestre 2024, salue le FMI, qui se réjouit aussi d'une décrue plus rapide que prévue de l'inflation. Elle devrait certes rester très élevée cette année, juste sous la barre des 140% fin 2024, estime l'institution, mais ensuite elle retomberait à 45% d'ici à la fin de l'année prochaine. prochaine, prévoit le FMI. Des signes d'une stabilisation de l'économie qui pourrait jouer en faveur de Buenos Aires, qui veut obtenir un nouveau prêt, un nouvel accord auprès du FMI, car l'Argentine doit rembourser 20 milliards de dollars d'emprunts qui arrivent à échéance l'an prochain. Le Fonds monétaire voudrait, en retour, une libéralisation du taux de change entre le dollar et le peso argentin, ce qui pourrait mener à une dévaluation de la monnaie nationale. Le pays va en tout cas finir l'année en récession et le coût social des réformes de Javier Milei est par ailleurs gigantesque. La pauvreté est au plus haut depuis 20 ans et touche plus de la moitié de la population.
En Espagne, deux jours après son annonce d'abandonner définitivement la vie politique, l'affaire Íñigo Errejón, qui continue de faire parler d'elle. Ce leader du parti de gauche radical Sumar, porte-parole du Parlement, a été accusé d'agression sexuelle par une actrice. Et ce scandale, François Musso, nourrit les guerres intestines au sein de la gauche et affaiblit par la même le gouvernement Sanchez.
Le parti Sumar, dirigé par la ministre du Travail Yolanda Díaz, a présenté ses excuses. L'agression sexuelle dénoncée par l'actrice Elisa Mulia contre Íñigo Errejón s'est produite il y a un an et la formation de gauche radicale reconnaît que ces mécanismes de détection ont failli. Ses dirigeants auraient dû voir que leur porte-parole avait une conduite inappropriée avec les femmes. Ce désaveu est d'autant plus grave qu'il touche une formation qui précisément défend les droits des femmes et les affres du patriarcat. Cela donne des arguments à la droite dans sa bataille culturelle contre la gauche et ses contradictions, souligne le politologue Pablo Simón. Sumar était déjà sur une pente descendante. Cette affaire avive ses divisions internes et affaiblit par ricochet le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez. Celui-ci dépend en effet de son alliance avec Sumar pour subsister et voter le prochain budget. Le leader Pedro Sanchez n'avait vraiment pas besoin de cela. Déjà fragilisé par l'inculpation de son ancien ministre des infrastructures pour corruption et par les poursuites judiciaires contre son épouse Begoña Gomez, accusée d'avoir obtenu un poste universitaire de façon frauduleuse. François Musso, Madrid, RFI.
La politique en France, cette fois à l'Assemblée nationale, de nombreux députés continuent de détricoter le projet de budget du gouvernement. Contre l'avis du ministre du budget, ils ont ainsi décidé de rendre pérenne la contribution exceptionnelle demandée aux entreprises de fret maritime et plafonner à 500 millions d'euros la niche fiscale dont bénéficie ce secteur. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a rejeté le projet du gouvernement d'alourdir le malus écologique sur presque tous les véhicules essence et diesel dès le 1er janvier prochain. En Guadeloupe, le rétablissement de l'électricité se poursuit de manière progressive. Au moins 65% des foyers sont réalimentés, cela 24 heures après une coupure électrique généralisée à cause de l'arrêt des moteurs de la centrale de Jarry, qui fournit la majorité de l'électricité sur le territoire, qui compte près de 380 000 habitants. Le préfet, comme le président du département, dénonce un sabotage, alors qu'un conflit social oppose depuis plusieurs semaines le syndicat CGT à la direction d'EDF. Écoutez maintenant cette habitante de Baie-Mahault, au centre de l'île, sur le retour timide à la normale.
Il y a certains secteurs comme le Gousier et Pointe-à-Pitre à qui on a remis en fait l'électricité vers 2 heures. Par contre, les secteurs qui ont eu de l'électricité vers 22 heures ont été coupés à 2 heures. Donc en fait, ils ont switché quoi. Le quotidien n'est pas évident. Ils ont envoyé ma clim s'est allumée.
Donc là, l'électricité vient de revenir chez vous?
À l'instant là, à l'instant, oui. Ils ont coupé à 2 heures du matin et ils viennent de renvoyer maintenant. Là, on essaie, donc, ben, par exemple, comme je vous disais, lancer une machine parce que c'est le week-end et que la semaine va recommencer. Et surtout, essayer au maximum de rafraîchir les pièces, de fermer pour éviter que l'air chaud ne rentre. C'est lourd, en fait. Ça part, ça revient. Vous savez, la nuit, quand vous vous reposez après une journée de travail, madame, vous avez juste une envie, c'est de vous reposer. Sauf que là, on se réveille, on est en sueur, le t-shirt est trempé, on se réveille. Et moi, je peux dire que sur mon secteur, on a de l'eau. Mais il y a ceux qui n'ont ni électricité, ni d'eau.
Propos recueillis par Sylvie Coffi. En Asie, un nouveau bilan aux Philippines après le passage de la tempête Trami. Au moins 97 morts et près d'un demi-million d'habitants déplacés en raison des crues générées par les pluies torrentielles qui ont ravagé des centaines de localités dans le nord de l'archipel. Et puis l'Indonésie a refoulé un navire des gardes-côtes chinois hors des eaux contestées dans la mer de Chine méridionale. Et ce, pour la troisième fois cette semaine. Des navires chinois rentrent régulièrement dans des zones revendiquées par l'Indonésie au nord de la mer des Natuna, revendiquée par Pékin, ce qui provoque des protestations de Jakarta. Ainsi va le monde, vous écoutez Radio France Internationale. Et venons-en maintenant à l'actualité sportive. Du football, Babacar Diarra. C'est jour de Classico ce soir en Espagne puisque le Real Madrid reçoit le FC Barcelone.
C'est potentiellement un premier tournant dans la course au titre espagnol. Les Blaugrana comptent 3 longueurs d'avance au classement et viennent d'écraser le Bayern Munich 4-1 en Ligue des Champions. Tandis que le Real de Kylian Mbappé a signé une remontada dont il a le secret face à Dortmund. Le capitaine des Bleus va découvrir ce soir l'atmosphère du Classico. Son entraîneur Carlo Ancelotti va l'aligner en tant que titulaire et le coach italien refuse de désigner un favori avant ce duel au sommet.
À vrai dire, le Barça joue très bien en ce moment et je pense que dans un match comme le Classico, il est difficile de désigner un favori. Ce sont des matchs très compétitifs, très disputés, mais aussi très agréables à regarder. C'est une fête du football et nous voulons bien faire devant nos supporters. Concernant Kylian, il se prépare pour le match de manière très tranquille. Il a confiance en ses qualités. Petit à petit, il cherche son meilleur niveau. Nous ne sommes pas pressés, ni moi, ni le groupe, ni lui. Nous sommes déjà satisfaits de ce qu'il fait. Il est évident qu'il va s'améliorer parce qu'il a toutes les qualités pour le faire.
Real Madrid, FC Barcelone, coup d'envoi dans un peu moins d'une heure à 19h, temps universel.
Dans trois quarts d'heure et à la même heure, dans le nord de la France, deux clubs rivaux vont s'affronter en Ligue 1.
Le derby du Nord va opposer Lens, 5e avant cette journée, à Lille, 4e. Les deux équipes sont à égalité avec 14 points à 6 unités. Des co-leaders, le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco. La semaine des Lillois a été marquée par une victoire de prestige, 3-1 face à l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. La confiance est donc au beau fixe, mais il faut très vite basculer pour le LOSC et son entraîneur Bruno Genesio.
D'abord, c'est un vrai derby, parce qu'il y a une vraie proximité entre les deux villes. Aussi beaucoup de choses qui opposent les deux villes. Et c'est aussi ce qui crée cette ferveur de derby. L'image de ceux que j'ai pu vivre avec Lyon contre Saint-Etienne. Ce sont des matchs où il faut à la fois avoir beaucoup, beaucoup d'agressivité, mais aussi beaucoup, beaucoup de lucidité pour pas que cette agressivité vous fasse déjouer ou vous amène vers des sanctions qui peuvent pénaliser l'équipe. Mais on sait que c'est un match très important parce qu'il y a des points en jeu face à un concurrent direct, mais aussi pour nos supporters, il y a une suprématie régionale en jeu aussi, et c'est aussi très très important à ce niveau-là.
L'entraîneur lillois Bruno Genesio. Par ailleurs, il n'y a plus d'équipe sans victoire en Ligue 1. Après le succès cet après-midi, d'Angers 4-2 face à l'AS Saint-Etienne. Actuellement, Brest mène 2 buts à 1 sur la pelouse du Stade de Reims.
Voilà pour le football. En tennis maintenant, il n'y aura pas de finale 100% française demain au tournoi de Bâle, mais il y aura tout de même un tricolore sur le court.
Giovanni Pecci-Péricard pourrait remporter le plus beau titre de sa carrière. Le Lyonnais de 21 ans, a écarté en 2-7, 7-6, 6-4 le Danois Holger Rune. Demain, il défiera en finale l'Américain Ben Shelton, vainqueur en deux manches de l'autre Français du dernier carré, Arthur Fils, 6-3, 7-6. Juste après avoir intériorisé sa joie de franchir les demi, Pecci-Péricard s'est projeté sur les clés de son match face à Shelton.
Le retour, parce que Ben est un très bon serveur. Voilà, j'ai eu du mal contre lui à Sur gazon, son service m'a posé beaucoup de soucis, mais bon, je pense que j'ai les armes pour pouvoir rivaliser. Et voilà, ça va être un très bon match, une très bonne finale. Et ça fait toujours plaisir de jouer une finale, même si je suis pas en France, mais j'ai l'impression d'être à la maison quand même. Et j'espère que vous m'accompagnerez demain du mieux possible.
Giovanni Pecci-Péricard, finaliste du tournoi ATP 500 de Bâle en Suisse, ce sera demain. Et ensuite, il va traverser la frontière pour se rendre à Paris en vue du Masters 1000 de Paris-Bercy.
Voilà pour les sports dans RFI Soir.
RFI Soir. Philippe Le Caplin.
Alors qu'il est midi et quart au Mexique, le Mexique où il y a encore de la violence. Avant-hier, 16 personnes ont été tuées dans le sud du pays dans des affrontements entre les forces de sécurité et des délinquants, très souvent liés au trafic de drogue. Des journalistes font également les frais de cette violence assassinée par les cartels. À Amaury Drochegonde, il y a eu par exemple cette nouvelle attaque commise contre un journal.
Oui, c'était le 17 octobre. Deux véhicules s'arrêtent devant un journal de Culiacán, dans l'état de Sinaloa, bien connu pour son cartel et la violence de ses gangs. Et devant ce journal, elles débattaient un homme tire une rafale contre les vitres de la rédaction. Heureusement, il n'y a eu aucune victime, mais cette attaque montre bien que le Mexique de la nouvelle présidente Claudia Sheinbaum, qui a pris ses fonctions le 1er octobre, n'en a pas fini avec les menaces contre ses journalistes. En 25 ans, il faut le savoir, il y a eu 160 professionnels des médias qui ont été tués au Mexique. Cela en fait un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes, même si, il faut le rappeler, il y a un niveau de violence très élevé pour l'ensemble de la population, avec plus de 30 000 morts par an, 450 000 en 18 ans. Les reporters sont précisément des cibles pour ce qu'ils révèlent de cette violence, du crime organisé.
Et cette année, la situation ne s'est vraiment pas améliorée.
Non. Écoutez, l'an dernier, RSF a recensé 4 journalistes mexicains tués et depuis le début de cette année, il y en a déjà autant. Par exemple, Martin Sanchez Inigues du quotidien La Jornada ou Alejandro Alfredo Martinez Nogues qui bénéficiaient pourtant d'une protection de l'État avec des gardes du corps. Reporters sans frontières parle de spirale incontrôlée contre les professionnels des médias et relève que le précédent mandat d'Andrés Manuel López Obrador n'a apporté aucune réforme pour lutter contre l'impunité sur ces crimes. Prenez Mario Gomez Sanchez, il a été assassiné en 2018 dans l'état de Chiapas après avoir dénoncé la corruption et le crime organisé. 3 hommes de main sont en prison, mais les commanditaires, probablement liés au milieu politique, ne sont toujours pas inquiétés. La collusion entre les autorités et le crime organisé est courante au Mexique.
Cela dit, la nouvelle présidente s'est engagée à mieux lutter contre cette criminalité.
C'est vrai, elle a promis d'encadrer le système judiciaire pour assurer de véritables enquêtes sur les crimes commis contre les journalistes, en particulier au niveau local, en lien avec les parquets. C'est vrai qu'on a vu aussi dans le passé des cas de manipulation de la justice et même des médias audiovisuels, Televisa et TV Azteca. On se souvient de l'affaire Florence Cassé, cette Française arrêtée après une mise en scène de l'ancien chef de la lutte anti-drogue, Genaro García Luna. Il est aujourd'hui en prison aux États-Unis, accusé de complicité avec le cartel de Sinaloa. Il aurait aussi tenté de faire assassiner la journaliste Annabelle Hernandez qui a enquêté sur lui.
Amaury de Rochegonde, toujours au Mexique, de nombreuses personnes reçoivent de l'argent de leurs proches partis chercher une vie meilleure aux États-Unis notamment. Ils sont 11 millions à avoir franchi le Rio Grande pour vivre le rêve américain. Alors ils envoient des remesas, c'est-à-dire de l'argent au pays, plus de 60 milliards de dollars. Et dans l'état du Michoacán, le village de Camuchuen s'est développé grâce à cette manne financière. Écoutez ce reportage de Gwendolina Duval.
À Comachuen, ce jour-là, il y a une fête patronale, en grande partie organisée par ceux qui ont migré aux États-Unis.
Normalement, ici, à Comachuen, il y a très peu d'emplois. Il n'y a pas de travail. La seule source de revenus que nous avons actuellement, elle est là-bas.
Dans le village, Porfirio Reyes coordonne le travail agricole. Comme lui, depuis 25 ans, plus de 300 hommes partent chaque saison dans une ferme de l'État de New York. Il s'agit d'une migration tout à fait légale, avec un visa d'employé, un travail intense de 5 à 9 mois, payé 17 dollars de l'heure.
Il y a de plus en plus de gens. Chaque mois et chaque année, ils sont plus nombreux. Moi, je voulais voir ma famille aller de l'avant, mais je ne savais pas comment faire. Donc j'ai décidé d'aller de l'autre côté pour leur offrir une vie meilleure. Et je crois que chaque jeune homme qui fait le choix d'aller là-bas, il va avec cette intention d'aider sa famille, ses enfants et ses parents.
La migration à Comachuen a commencé dans les années 90. Dans les rues, Roberto González montre les réalisations financées avec les dollars américains. Le village espère bientôt ouvrir une école.
Ils soutiennent une communauté de plus de 10 000 habitants. Les preuves de leur investissement se ressentent partout, dans les maisons, l'éducation ou encore dans la santé.
Ce chercheur a fait son doctorat sur ces travailleurs. Il est lui-même parti une fois.
Cela ne signifie pas pour autant que c'est simple. Eux paient le prix et ont des séquelles. À chaque saison, ils poussent et se forcent. Donc les travailleurs qui font ça depuis 10 ans ont des douleurs et des maladies. Mais ils ont des besoins, alors ils continuent de migrer. Et comme ils le disent eux-mêmes, on migre par nécessité, pas pour le plaisir.
Sur le pas de son petit commerce, José González présente l'accomplissement de son travail. Il est parti pour la première fois en 2010.
Ce n'était pas comme ça au début. On a commencé par mettre un revêtement au sol. On y va petit à petit, ça s'améliore. J'ai envie de faire d'ici une mini-épicerie. Pour ça, il faudrait que j'aille aux États-Unis encore une saison ou deux.
Sa fille, Lady, qui l'aide en boutique, s'apprête à devenir professeur.
Je vais terminer mes études, ça va être génial.
J'ai deux fils aussi. Mon rêve est qu'ils deviennent quelqu'un.
Gwendolina Duval, au retour du Michoacán, RFI.
À 10 jours de l'élection présidentielle américaine, que vous pourrez d'ailleurs suivre sur RFI, une statistique montre que les Américains vivant en zone rurale meurent en moyenne 5 ans plus tôt que leurs aînés. Monica Potts est journaliste pour le média 538, elle a cherché à comprendre. Écrivaine, elle est retournée dans sa ville d'origine, Clinton, dans l'Arkansas, pour explorer sa propre histoire et celle de son ami d'enfance. Elle raconte à Marie Normand.
Bonjour Monica Potts.
Hello.
Comment décririez-vous Clinton, cette ville de l'Arkansas où vous avez grandi et qui est au cœur de votre livre ?
C'est une ville incroyablement petite. Il n'y a rien autour de vous. Il y a votre petite ville et des arbres, des montagnes et des rivières. Le taux de pauvreté se situe autour de 15-20% depuis ma naissance. Certaines personnes s'en sortent bien, mais c'est un endroit où beaucoup de gens ont toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Et le revenu médian est encore bien inférieur à la moyenne nationale. C'est un État plus pauvre que le reste du pays.
Alors vous comparez votre trajectoire à celle de Darcy, votre ami d'enfance. À l'époque, ce qui vous rapproche, c'est le désir irrépressible de quitter justement cette ville de Clinton.
Oui, nous avions le sentiment que cette ville était trop petite pour nos ambitions et qu'elle ne correspondait pas vraiment à nos désirs à bien des égards. Les gens écoutent de la country, ils veulent rester là-bas et fonder une famille. Nous, nous voulions partir à l'aventure. Nous voulions écouter la musique alternative des années 90, comme Nirvana. Nous avions ce grand atlas et on imaginait ce que ça ferait de vivre là-bas.
Vous allez réussir à quitter Clinton, mais pas votre ami Darcy qui va multiplier les petits boulots, perdre pied, devenir toxicomane, sans domicile fixe. Vous essayez de comprendre pourquoi dans ce livre. Vous insistez d'abord sur le poids de la religion omniprésente en Arkansas. De quelle façon cela influence-t-il la façon dont les filles grandissent en Arkansas ?
Oui, c'est une religion chrétienne évangélique très conservatrice que l'on retrouve partout. Par exemple, à Clinton, l'église baptiste du Sud institue une hiérarchie très explicite. Ce sont les hommes qui commandent, il faut les écouter et ils doivent écouter Dieu. Et vous devez vivre votre vie d'une certaine manière, adhérer à un certain code moral. On nous a vraiment appris à nous fixer des objectifs et à planifier notre avenir pour être une bonne épouse et une bonne mère. Le premier emploi et tout le reste était vraiment secondaire, ce qui influençait nos propres ambitions. En mathématiques et en sciences, par exemple, nous exigeons des femmes qu'elles soient parfaites. Et au fur et à mesure qu'elles avancent dans les études, la vie commence à peser sur les filles d'une manière différente de celle des garçons. Cela les amène à revoir leurs ambitions à la baisse et à être plus réalistes. Peu à peu, on voit les filles décrocher, faire un peu moins d'efforts et les mêmes schémas se répètent. Cela devient alors un problème social et je pense que le poids de l'Église y contribue.
Alors d'autres facteurs expliquent les difficultés des femmes en zone rurale et le fait qu'elles meurent plus jeunes qu'avant. Vous parlez notamment de la drogue, de la meth disponible partout. Derrière cette description très sombre de votre ville d'origine, vous tentez de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait de nous ce que nous sommes ? Est-ce que vous avez trouvé une réponse claire à cette question ?
Je n'ai pas trouvé de réponse claire et simple à cette question. Ce que je pense avoir démontré, c'est qu'il y a donc 1 million de petits endroits où l'on peut creuser dans l'histoire d'une personne pour être capable de dire « ça c'était un facteur important, ça c'était un tournant ». Et lorsque nous les additionnons, nous pouvons comprendre pourquoi nous avons construit cette vie.
L'Arkansas qui vote historiquement républicain et qui votera majoritairement Trump, on le sait, le 5 novembre, comment vous l'expliquez ?
Part of it is that the United States is changing a lot. We're at a moment where...
Cela s'explique en partie par le fait que les États-Unis sont en pleine mutation. Nous sommes à un moment où, sur le plan économique, de nombreuses personnes sont laissées pour compte. Et sur le plan culturel, les États-Unis sont en train de changer aussi. Nous approchons d'un moment où, dans les prochaines décennies, la majorité des Américains ne s'identifieront plus comme blancs, ce qui a constitué jusqu'ici la majorité de la population américaine. Il existe donc un nombre important de personnes, pour la plupart âgés, pour la plupart vivant en zone rurale et pour la plupart blanches, qui fantasment cette Amérique passée. Ils sont nostalgiques. Trump a su mobiliser à son avantage cette forme de racisme, de nativisme, de xénophobie. Il dit « Je vais empêcher ce pays de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Je vais le ramener à ce que vous pensez qu'il était ». Cette rhétorique est très puissante et elle surpasse tout ce que Trump a bien pu faire en tant que président. Je pense que les gens votent pour une idée qui leur plaît lorsqu'ils votent Trump. Et cela est un défi pour nous parce que, vous savez, nous sommes très fiers de notre démocratie. Beaucoup d'experts sont aujourd'hui extrêmement inquiets pour son avenir.
Merci, Monica Potts, d'avoir été avec nous sur RFI.
Merci beaucoup de m'avoir reçu.
Abidjan, 97.6 FM.
Abidjan, où jusqu'à ce soir ont lieu les rencontres internationales de la marionnette d'Abata. Pour sa 4e édition, ce festival a pour thème l'Eldorado, c'est ici. Il vise à encourager des vocations de marionnettistes chez les jeunes. Marine Janin a suivi ces circassiens pour Radio France Internationale.
S'il y a un policier qui passe, on n'hésite pas. Ou un militaire, ou même les politiques, de temps en temps, ping. Voilà.
Alban Thierry dirige la compagnie française Zouak qui revisite le légendaire personnage de Polichinelle. Ils ont été invités à l'académie Ivoire Marionnette dans le quartier d'Abata pour dispenser une formation d'une semaine à l'art de la marionnette.
On construit avec eux des marionnettes portées et moi je fais la mise en jeu, la manipulation et le jeu, la connaissance de toutes les techniques qui existent dans la marionnette, aussi bien traditionnelles que contemporaines, ses possibilités, ses faisabilités. Mais bon, nous, on aime bien quand même le côté un peu comique, hein, si la marionnette sert quand même à faire rire. Après, il y a plein de courants. Hein.
20 jeunes Ivoiriens ont appris avec eux à fabriquer et à mettre en scène ces marionnettes portées. Une technique bien particulière qui explique Romain Duverne, son associé.
Elles ont une poignée derrière la tête. Et alors, en dessous, il y a un buste en mousse qui vient s'accrocher à la taille du manipulateur. Du coup, les jambes du manipulateur deviennent les jambes du personnage.
Et les élèves n'ont pas démérité. Leur spectacle satirique a séduit les centaines de spectateurs de la cérémonie d'ouverture. Le festival propose ensuite une vingtaine de représentations de marionnettes, certaines géantes, d'autres à taille humaine et d'autres encore d'une quinzaine de centimètres de haut, comme la pièce de la compagnie béninoise Eric Pessa Bouillot, Le Petit Acli, qui met en scène le voyage initiatique d'un adolescent.
J'aimais le jonglage, et puis les marionnettes, et puis l'histoire.
L'objectif du festival est de faire découvrir la profession de marionnettiste aux jeunes pour encourager l'insertion professionnelle par l'auto-emploi. Badriss Assoro est le commissaire général d'ERIMA.
Nous voulons, à travers l'art de la marionnette, former des jeunes qui pourront s'insérer dans le tissu social. Nous avons choisi comme thème cette année l'Eldorado, c'est ici. Parce que nous estimons qu'un artiste bien formé peut vivre de son art dans son pays. Il faut qu'on arrête d'ailleurs l'Afrique, parce que voilà, on veut aller au paradis, on peut créer notre paradis ici, à travers notre métier, si on est bien formé, on est mieux structuré.
La Côte d'Ivoire compte une douzaine de compagnies qui regroupent environ 70 professionnels de la marionnette, et 15 des 20 étudiants formés cette année ont déjà demandé à rejoindre leur rang. Marine Janin, Abidjan, RFI.
Voilà un reportage réalisé par Marine Janin. À Abidjan, Côte d'Ivoire, à suivre justement l'actualité en Afrique. Ce sera juste après ces quelques messages, comme on dit. Et il sera alors 20h30 ici à Paris pour l'actualité du continent.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
Au Sénégal, un média promeut les droits des femmes et les actions menées par les femmes. InfoL agit pour une meilleure représentation et une meilleure représentativité des femmes dans l'espace médiatique sénégalais. Ça lui a valu d'être l'un des lauréats 2024 du prix francophone de l'innovation dans les médias. La fondatrice d'InfoL, Alice Diba, est mon invitée dimanche à 11h10 TU dans l'atelier des médias.
Tout à l'heure sur RFI,
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Un monde endetté. Que faire pour sortir de la spirale de la dette publique et privée ? Investir, relancer la croissance, mais ne pas crouler sous les emprunts. La question est au centre des assemblées du FMI à Washington. Son économiste en chef, le français Pierre-Olivier Gourinchat, est notre invité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs.
Avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tout à l'heure à 23h10 TU sur RFI.
Afrique, mémoire d'un continent, avec Penaï Traoré.
D'abord protectorat allemand, puis partagé entre la France et l'Angleterre, le territoire camerounais sera soumis à deux régimes coloniaux différents, présageant de la future crise des régions anglophones. De quoi parle-t-on exactement quand on évoque cette crise ? Réponse ce dimanche avec nos invités.
Afrique, mémoire d'un continent.
Dimanche à partir de 8h10 TU sur RFI.